aujourd'hui, c'est samedi, hein? Le 6 d'avril. Samedi, c'est un jour où beaucoup de Grecs ne travaillent pas. Les écoles, les bureaux, les banques sont fermées. Les Grecs, ils se réveillent un peu plus tard. Ils vont faire des achats. Ils peuvent faire le ménage. Ils vont trouver des amis peut-être pour prendre café ou pour déjeuner ensemble. Les ruines qu'on trouve maintenant dans le site de Corinthe sont de la période romaine. Quand les Romains sont arrivés ici, ils ont rasé la ville. Ils ont laissé seulement le temple d'Apollon, qui était de la période archaïque du 6e siècle avant Jésus-Christ. Ils ont détruit toute la ville. Mais très tôt, ils ont compris l'importance de cet endroit et ils l'ont restauré. Il y a le forum, nous avons une grande place, beaucoup plus grande que le forum qu'on a vu à Philippe. Nous avons les ruines de magasins, nous avons le propylée, l'entrée monumentale, ça qui reste de la porte monumentale dans le forum. Il reste quelques fontaines publiques. Nous avons aussi le temple d'Apollon qui se trouve sur une petite colline dans le site archéologique, d'où on peut voir d'un côté le forum, de l'autre côté on peut voir jusqu'au golfe thermique de Corinthe. Corinthe était une ville assez grande, importante, pendant la période où Saint Paul il est arrivé ici, pendant son deuxième voyage missionnaire, où il restait la période plus longue, 18 mois. Il a trouvé deux amis qui sont venus de Rome, Aquilas et Priscilla. Vous savez, l'église orthodoxe en Grèce, on célèbre quelquefois, c'est la fête de Saint-Valentin. Mais ça, ce n'est pas un saint orthodoxe. C'est le saint de l'amour. Alors, l'église orthodoxe a dit que c'est Aquilas et Priscilla, les saints qui protègent l'amour. Et c'est la fête, c'est le 13 de février. Il était un couple. Paul restait alors avec eux, il faisait le même métier. Quand ils ont commencé les problèmes, ils ne voudraient pas rester dans la prison. Il était présent dans le forum, là où se trouve le Bima. Il a parlé devant les Corinthiennes et devant le préconsul Gallio. Et après, avec les deux amis, la couple, ils sont allés jusqu'à Sancrée et par là, ils sont partis vers Éphèse. Si vous verrez sur la carte où se trouve Corinthe et où se trouve de l'autre côté Éphèse, vous verrez que nous sommes presque au même niveau de la mer Égée, un peu plus au sud. Ils sont partis alors par là. Après la visite de Saint Paul, pendant cette visite à Corinthe, il y avait deux synagogues. Et après, il y avait une communauté chrétienne. Et ils ont commencé, pendant la période paléochrétienne, quand ils ont le droit, ils ont construit des églises. On va passer encore une fois, pas très loin de cette ruine, de cette basilique qu'il y avait à Lechion, près de Port, qu'ils ont découvert les dernières années, les archéologues. Corinthe était une ville importante jusqu'au 7e siècle après Jésus-Christ. Et après, ils l'ont abandonnée. Quelques tremblements de terre étaient la cause. Et beaucoup plus tard, quand ils ont commencé à construire la ville de Corinthe, ils ne savaient pas exactement où était l'ancienne Corinthe. Ils ont construit la ville actuelle de Corinthe près de la mer. En travaillant pour le village on l'appelle maintenant Ancien Corinthe, ils ont trouvé les ruines et ils ont organisé le site archéologique qu'on va visiter. Voilà, en montant maintenant sur le pont à gauche. Ici, dans cette région, était le port, les Caïon, et à gauche, quelques ruines, quelques colonnes. Là se trouve, oui, c'est une petite colline, si on peut dire, et là, c'était la basilique paléochrétienne. Les Vénitiens, pendant le XIIIe siècle, quand ils sont ici dans la région, ils voudraient contrôler tous les passages et l'entrée dans la mer Égée, la route vers Constantinople et vers Jérusalem. C'est pour ça qu'ils ont construit beaucoup de forteresses tout autour de Péloponnèse. Là où la compagnie Vinci a construit le pont au nord-ouest de Péloponnèse, le point plus étroit, l'entrée dans le golfe de Corinthe, là il y a deux forteresses d'une et de l'autre côté de cette période-là pour contrôler le passage, l'entrée du golfe de Corinthe.
À ces mots de résurrection des morts, les uns se moquaient. Les autres disaient, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. C'est ainsi que Paul se retira du milieu d'eux. Quelques hommes, cependant, s'attachèrent à lui et embrassèrent la foi. Denis l'Aréopagite fut du nombre. Il y eut aussi une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et gagna Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du pont, qui venait d'arriver d'Italie avec Priscille, sa femme, à la suite d'un édit de Claude qui ordonnait à tous les juifs de s'éloigner de Rome. En réalité, cet édit est très intéressant. Si l'empereur Claude ordonne aux juifs de quitter Rome, c'est parce qu'il y a au sein des juifs des émeutes en raison d'un certain Christus, de Christ bien sûr. Donc on peut penser que l'annonce de Jésus-Christ provoque chez les juifs de Rome, comme ça a été le cas un peu partout, provoque chez les juifs de Rome pas mal de tumultes. Et on peut penser que Priscille et Aquila faisaient partie de ces juifs qui avaient reconnu en Jésus le Christ. Évidemment, jusqu'en 80, on ne fait pas trop la différence entre les juifs qui ont reconnu le Christ et ceux qui ne l'ont pas reconnu. De la part des autorités romaines, ce sont des juifs. Et comme nous avons déjà vu, c'est à partir de l'an 80, dont l'expulsion des synagogues, qu'évidemment la différence sera nette. Et c'est pour ça que Luc écrit avec l'objectif d'essayer de dire aux autorités romaines, vous n'avez rien à craindre des chrétiens, qui plus est, ils sont les héritiers du judaïsme. Dans le texte continue, il s'agit de Priscille et Aquila, il se lia avec eux et comme ils étaient du même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient de leur état fabricants de tentes. Chaque Shabbat, ils discouraient à la synagogue et s'efforçaient de persuader juifs et grecs, juifs et non-juifs. Donc on a un peu le scénario de Paul qui travaille toute la semaine avec Priscille et Aquila. Et c'est le Shabbat, donc le samedi, qu'ils vont à la synagogue et qu'ils essayent de persuader juifs et non-juifs. quand Silas et Timothée furent arrivés de Macédoine, là où nous étions, au tout début de notre pèlerinage, Paul se consacra tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus est le Christ. Mais devant leur opposition et leurs paroles blasphématoires, il secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang, tout cela, ne l'oubliez pas, c'est Luc qui l'écrit, mais Luc n'était sûrement pas là et il n'avait pas un enregistreur ou quelque chose qui lui permettait d'enregistrer les paroles de Paul. « Que votre sang retombe sur votre tête, pour moi je suis pur et désormais c'est aux païens que j'irai. » Alors se retirant de là, Paul se rendit chez un certain Justus, homme adorant Dieu, donc qui faisait partie de ces craignants Dieu, ces hommes qui n'étaient pas nécessairement juifs, qui étaient plutôt des païens, mais assez séduits par le judaïsme, sans pour autant se faire circoncire. Donc il se rendit chez un certain Justus, homme adorant Dieu, dont la maison était contiguë à la synagogue. Crispus, le chef de synagogue, crut au Seigneur avec tous les gens. Beaucoup de Corinthiens qui entendaient Paul embrassaient également la foi et se faisaient baptiser. Une nuit, dans une vision, le Seigneur dit à Paul, « Sois sans crainte, continue de te parler, ne te tais pas, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai à moi un peuple nombreux dans cette ville. » Il séjourna à Corinthe 1 an et 6 mois, enseignant aux gens la parole de Dieu. Alors que Gallion, celui dont nous avons parlé lorsque nous étions à Delphes, alors que Gallion était proconsul d'Achaïe, les Juifs se soulevèrent d'un commun accord contre Paul et l'amenèrent devant le tribunal en disant « Cet individu cherche à persuader les gens d'adorer Dieu » d'une manière contraire à la loi. Paul allait ouvrir la bouche quand Gallion dit aux Juifs, « S'il était question de quelque délit ou méfait, j'accueillerais, Juifs, votre plainte comme de raison. Mais puisqu'il s'agit de contestation sur des mots et des noms et sur votre propre loi, à vous de voir. Être juge, moi, en ces matières, je m'y refuse. » Et il les renvoya du tribunal. Tous alors se saisirent de Sosthène, le chef de synagogue, et devant le tribunal se mirent à le battre. Et de tout cela, Gallion n'avait cure. Paul resta encore un certain temps à Corinthe, puis il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie. En réalité, il va aller à Éphèse. Priscille et Aquila l'accompagnèrent. Ils abordèrent à Éphèse où il se sépara de ses compagnons, il se rendit à la synagogue et s'y entretint avec les Juifs. Aujourd'hui, les droits de l'homme ou les conceptions que nous avons de la femme, c'est un homme de son temps. Il y a bien une nouveauté chrétienne, mais cette nouveauté chrétienne, il l'inscrit, dans ce qui est la vie de son époque. Par exemple, je pense à l'esclavage. Certains disent, mais quand même, Paul aurait dû comprendre que, à partir de ce qu'il écrit, il ne peut pas y avoir d'esclaves. En réalité, la nouveauté chrétienne que Paul va traduire, il va la traduire dans le fait que l'esclave est mon frère en Jésus-Christ. Et si l'esclave, c'est mon frère en Jésus-Christ, on peut comprendre que c'est cette nouvelle-là qui va transformer de l'intérieur les relations entre maître et esclave. On a cela dans le billet qu'écrit Paul à Philémon. Philémon avait un esclave qui s'appelait Onésime. On pense qu'Onésime avait volé son maître et il s'était échappé. Et puis Paul il se convertit au christianisme et Paul le renvoie vers Philémon en lui disant « Je te demande de l'accueillir bien plus que comme un esclave, comme ton frère. » C'est ça qui va travailler à la transformation des rapports sociaux. C'est le fait que c'est la fraternité en Jésus-Christ le fait que esclave et maître, personne cultivée, personne moins cultivée, que tout le monde communie au corps et au sang du Christ et s'efforce de vivre dans ces relations de communion. Vous avez vu dans la lettre aux Philippiens que personne ne se considère supérieur aux autres, que personne ne recherche son propre intérêt. C'est cela qui va transformer de l'intérieur les relations sociales. Il n'y a pas de révolution, mais il y a une transformation qui se fait par l'accueil de cette parole qui transforme et qui fait que hommes et femmes, esclaves et hommes libres, se reconnaissent frères. Donc pas de révolution, mais peut-être une révolution plus pacifique, qui est la révolution, la transformation des cœurs. On aura l'occasion d'en reparler. Voilà, nous sommes devant le site de Corinthe.
Vous pouvez voir juste devant nous ici une roche qui est taillée. Ça a été la fontaine de Hlavki. Il n'y avait pas d'eau dans les maisons à cette époque-là. C'est l'eau qui descend par les montagnes, arrive jusqu'ici. Il y avait des citernes au sous-sol et ils peuvent prendre de l'eau. Et ils peuvent le transporter dans les hydries. À droite, sur la colline, le temple d'Apollon. C'est le plus vieux bâtiment dans le site archéologique de Corinthe, 6e avant Jésus-Christ, avec quelques colonnes monolithiques de style dorique, qui ne sont pas les mêmes, toutes les colonnes, parce qu'au début étaient en bois et doucement ils les ont remplacées. Mais il reste encore, elles sont 7, je crois qu'elles restent encore là-haut. On a dit qu'il y avait des synagogues, il y avait quelques synagogues à Corinthe. Nous ne savons pas exactement où, mais si vous venez ici où je suis maintenant, vous pouvez voir là-haut une inscription qui écrit « Roi Rama Omera Rama Ita ». Peut-être la fin du mot « Synaroi », c'est la synagogue en grec, et après il y a un « E ». B et P, Evre, Evraïki, la synagogue hébraïque. Hein? On a trouvé ça et on peut comprendre qu'il était une inscription juste dessus la porte de la synagogue et le minorat que vous voyez ici, c'est encore un élément qui nous aide. Si vous n'avez pas de parapluie, vous pouvez rester dans le portique et vous verrez dans la cour toutes ces statues sans tête. Comme d'habitude, la question est pourquoi il manque les têtes. Nous sommes dans une région où il n'y a pas de marbre. Et pendant la période romaine, les empereurs romains changent très souvent. Alors il n'y a pas la possibilité d'avoir un grand morceau de marbre pour faire un nouveau statut. Ils changent seulement la tête. C'est plus facile de transporter un morceau plus petit pour changer seulement les caractéristiques de la personne. Les Grecs, ils utilisent un morceau de marbre pour leur statue. Les Romains, hein, pendant la période romaine, ils utilisent les deux morceaux. Et pendant la catastrophe, quand il était tombé tout cette statue, ils ont trouvé ici le corps et après quelques mètres la tête. Quelquefois dans les musées, on trouve aussi les têtes, mais ce n'est pas sûr. Regardez ici maintenant, nous sommes sur la carte de la région. Hein, ça c'est le canal. Nous avons d'un côté, vous êtes sur le golfe Saronique, la mer Égée, et vous êtes sur le golfe de Corinthe, à l'ouest. C'est la Grèce continentale et nous sommes à Péloponnèse. La ville de Corinthe, c'est là, le morceau. Argent, là, oui. Le premier port qui était plus près, l'Ekaïone. Et l'autre, de l'autre côté, c'est Sancré, Kéchries, on dit en grec. D'où Paul, il est parti. Et vous voyez aussi le canal pour traverser, hein, pour passer plus facilement l'isthmus. On peut savoir par les historiens, et après toute cette fouille, que les Grecs, à cette époque-là, ils ont des coutumes funéraires presque comme aujourd'hui. C'est-à-dire, après la mort de quelqu'un, ils font une cérémonie funéraire où ils vont enterrer le corps, ou pour les plus importants, ils vont faire une crémation, comme on a vu à Macédoine. Ils ramassent les os, ils les mettent dans les boîtes, dans les urnes. Ils utilisent les vases comme urnes très souvent. Et après toute cette cérémonie, il y a un dîner pour toutes les personnes qui participent à la cérémonie funéraire. On fait la même chose aujourd'hui. Et comme d'habitude, il y avait de soupe. Il offrait de soupe. Et encore en Grèce, on fait ça. Il organise en Grèce, à cette époque-là, dans les grandes fêtes, dans les grandes villes, une fête pour la fertilité de la terre. Et qui participait à cette fête? Qui était responsable pour la fertilité? Les femmes. C'est une grande fête à la fin d'été, le mois du septembre. On l'appelle Thesmophoria. Les femmes sacrifiaient de cochons, ils les coupaient en morceaux et ils mettaient le morceau de la viande dans la terre pour nourrir la terre, pour être plus fertile l'année prochaine. Ici alors, nous avons quelques statues avec les femmes qui portent de cochons, comme vous voyez. Il y a, comme d'habitude, un sanctuaire, un temple qui était consacré à Déméter, la déesse de la fertilité aussi. Hein? Et ils mettent dedans ces petites statuettes. Alors, la première période importante pour Corinthe, c'est la période grecque ancienne. Et la deuxième période d'un grand développement de Corinthe, c'est la période romaine. La deuxième salle, alors ici, c'est consacrée à la période romaine. Nous avons quelques mosaïques qui sont sur le mur maintenant pour les voir encore mieux. De la période romaine, vous voyez les tesselles. On a vu des mosaïques de la période paléochrétienne, n'est-ce pas? Oui, et byzantin aussi. Dans le musée byzantin de Thessalonique, le Deux Pans et Saint Dimitrios, ça a été la décoration sur le mur, dans les églises. Ici, nous avons des mosaïques qui décoraient quelques maisons privées, les salles pour les banquets. On a dit qu'est-ce que c'est le banquet. Hein? Pendant l'Antiquité, les hommes devaient participer à la sasse et après, ils avaient le droit de participer au banquet, qui était seulement pour les hommes, comme on a dit. Ça, alors, était la décoration sur le pavement. Vous pouvez imaginer comme on va mettre un tapis maintenant sur le salon, hein, sur le pavement du salon. Ils faisaient la même chose avec les mosaïques. Au milieu, nous avons Dionysos, la tête de Dionysos. Peut-être quelquefois on dit la méduse, mais ici c'est sûr que c'est Dionysos parce que nous avons les feuilles de lierre, de vigne, comme vous préférez, sur la tête, alors c'est Dionysos. Et c'est normal parce que Dionysos protège le banquet. Alors on le trouve très souvent. Il manque quelques objets au milieu de cette salle jusqu'à avant quelques mois. Il y avait quelques objets qui les ont pris pour faire des travaux. Qu'est-ce qui se passe ici? En avril, 12 avril de 1990, des voleurs, ils ont pris par ce musée 285 anciens objets. On les a perdus. Pendant une nuit, ils sont entrés et ils ont pris ces objets. En 1999, en septembre, la police grecque et FBI aux États-Unis, ils ont trouvé 266 de ces objets à Miami, de Floride, aux États-Unis. Et maintenant, enfin, ils sont encore dans le musée. Ils les ont pris cette période pour faire quelques travaux. Il y avait des voleurs à partir de l'Antiquité. On a vu les tumulus de Macédoine avec le tombeau de Perséphone où était la fresque des dents. Et on a dit que les voleurs, ils ont pris tout ça, qu'ils ont pris cette époque-là, 3e siècle avant Jésus-Christ. Il y a près de Pella, de tumulus aussi, où ils sont entrés les voleurs. Ils ont pris tout ça qu'ils ont trouvé. Plus tard, d'autres voleurs qu'ils sont entrés, ils n'ont rien trouvé. Ils ont gravé sur les murs des choses mauvaises pour les personnes qu'ils ont pris tout ça, ils n'ont rien trouvé. Encore, il y a des voleurs. Et on dit quelquefois, ils sont les Turcs, ils sont les Albanais, ils sont, je ne sais pas, non, ils sont les Grecs. Les habitants, les agriculteurs sont les premiers qui vont trouver quelque chose. En travaillant dans la terre, ils trouvent des choses. Et ils sont eux qui vont inviter les archéologues pour faire de fouilles. Ils sont les mêmes, quelquefois, qu'ils volent. Nous avons beaucoup de collections privées où ils ont trouvé tous ces objets. À Athènes, vous visiterez le musée de l'Acropole, le nouveau musée de l'Acropole. Il y a aussi le musée Benaki. C'est un musée privé, une collection privée, où il y a des objets à partir de la période néolithique jusqu'à aujourd'hui. Il écrit « bout d'oreille de la période mycénienne ». Il n'écrit pas où ils les ont trouvés, parce qu'ils ne savent pas. Bon, les mêmes personnes, les habitants locaux, sont les personnes qui travaillent après, pendant les fouilles, sont les mêmes qu'ils sont les gardiens dans le musée aujourd'hui. Il y a aussi quelques personnes qui volent. Nous avons ces phénomènes. J'ai entendu un archéologue à Pella, à Thessalonique, avant 2 années. Il disait que je travaille dans ce village, un village là à côté, pendant 20 ans. Et maintenant, j'ai compris que je suis toujours 2 pas derrière les voleurs. Nous sommes tous ensemble au café traditionnel du village pendant la journée. On parle, ils disaient qu'est-ce qu'ils pensent, ils demandaient l'opinion des habitants locaux, qu'ils savaient mieux là, l'endroit. Et il a compris qu'il y avait quelqu'un qu'il fouillait avant lui. Ici, ils ont une collection de différents chapiteaux de colonnes. Et comme on dit toujours, le style corinthien, le style dorique, c'est le style ionien. Ici, vous pouvez les voir tout ensemble pour comprendre la différence. On commence à gauche avec les 2 premières colonnes. Ce sont de style dorique. C'est le plus simple. Il n'y a rien. Mais c'est le plus classique qu'ils ont utilisé pour tous les grands temples, d'Apollon à Delphes, pour le Parthénon qu'on va voir demain à Athènes, pour le temple d'Apollon ici et beaucoup d'autres. La 3e colonne avec les volumes, ça c'est la... Le style ionique. Encore en haut à droite, à côté, une autre avec quelques feuilles plus fines. Ça, c'est le style éolique. Ça, c'est un peu plus rare. Et après, les 2 derniers, c'est le style corinthien. Elles ne sont pas les meilleures de style corinthien qu'on peut voir, mais c'est comme une corbeille avec les feuilles d'acanthe. C'est ça qu'on trouve plus souvent, comme on a dit, pendant la période byzantine et romaine aussi. Alors, un petit arrêt ici, dans le centre de forum, alors nous avons le Bima devant nous ici. Il écrit sur le mur Bima, et Bima, on a dit qu'en grec signifie le pas, mais signifie aussi le podium, là où on peut rester pour parler au public. Et c'est exactement ça, ça c'est le Bima de Saint-Paul. C'est ici où il était avant 52, après Jésus-Christ, avant de partir vers Sancré, le port de Sancré. Il était monté là-haut et il a parlé au public de Corinthe.